puis je m'en ai permis, puis finalement, en arrivant un peu dans la vie adulte, fin de l'adolescence, tout ça, t'es jeune adulte, tu te rends compte rapidement que finalement, la vie, c'est une longue succession de souffrances quasiment ininterrompues. C'est pas qu'il n'y a pas des beaux moments au travers de tout ça, mais que dans l'ensemble, le portrait de l'existence humaine est indéniablement empreint d'une grande souffrance. Il y a certaines personnes qui vivent avec des souffrances moins lourdes, d'autres avec des souffrances plus lourdes, mais tout le monde souffre, il n'y a personne qui s'en échappe. Quand on est enfant, on grandit presque tous avec une certaine innocence de la vie. C'est bien comme ça, les choses nous ont l'air faciles, on n'a pas de soucis à se faire, et puis souvent les soucis qu'on a sont tellement anodins, si je peux dire, ou banals, tu sais, et ça prend une immense ampleur, là. Je pense à mon petit garçon des fois. Mais éventuellement, quand on grandit, on prend conscience de plus en plus de la complexité de la vie, de la souffrance autour de nous, et pas seulement autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. On découvre tout ce qu'on est assujetti à faire face inévitablement à une certaine sorte de souffrance. Peu importe qui, combien ta foi elle est forte ou pas, la question n'est pas là. On a tous des moments où on arrive au bout de nous-mêmes. Et le problème, c'est que si on est honnête avec nous, on a de la difficulté à croire que Dieu peut nous diriger et nous soutenir adéquatement dans ces moments de nos vies. Comme chrétien, c'est parfois même un fardeau ou un grand mystère, au moins un grand mystère, de savoir que Dieu est au contrôle quand on passe au travers de la souffrance. Parce qu'on se dit, ben s'il peut changer n'importe quelle situation de ma vie, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant? Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça, passer au travers de tout ça? Peut-être que c'est ton cas, tu vis de l'insécurité, du doute, du rejet, une douleur quelconque qui peut-être remonte même à très longtemps, l'isolement, de la solitude. On souffre tous. Aucun être humain n'y échappe. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on passe du désespoir de la souffrance à une expérience joyeuse de l'amour de Dieu. Et puis en fait, même pour ceux qui sont encore plus amochés, je dirais, par la vie ou rendus sceptiques par la souffrance, c'est est-ce que c'est même possible? Est-ce possible de passer du désespoir de la souffrance à une expérience joyeuse de l'amour de Dieu? Et comment? Donc, la proposition que je vous fais ce matin, et qu'on va voir ensemble dans le psaume 13, c'est que tu ne peux pas échapper à la souffrance, mais tu peux certainement choisir où est-ce qu'elle t'emmène. On va lire le psaume 13 ensemble. Au chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde-moi. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas. Je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mon premier point ce matin, c'est assez simple. Les souffrances de la vie sont bien réelles et elles peuvent durer longtemps. Les souffrances de la vie sont bien réelles. On voit David dans le psaume qui dit « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? » C'est souffrant. Comme croyant, comme enfant de Dieu, Dieu ne nous a jamais promis une vie sans souffrance. Un Pierre nous dit « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Comme croyant, Dieu ne nous demande pas non plus de ne pas nous plaindre dans la souffrance ou de faire comme si ça ne faisait pas mal parce qu'on doit montrer au monde qu'un chrétien c'est fort, que Dieu l'a racheté, que oui, Dieu nous a racheté, mais Dieu ne nous demande pas de nier la souffrance dans nos vies. Il y a certains chrétiens parfois, peut-être c'est ton cas, pour qui on a l'impression qu'ils n'ont pas le droit de souffrir ou du moins, ils n'ont pas le droit d'exprimer. Tout va tout le temps bien. Il n'y a jamais de problème. Dans le psaume 13, David, lui, il est extrêmement franc avec Dieu. Il lui dit en québécois, mais c'est « Hey, tu m'as oublié! Tu te caches! Je souffre intérieurement, je suis attaqué de l'extérieur, je suis tanné, quand est-ce que c'est fini? » C'est ça que David est en train de dire dans son psaume. Vous savez, Jésus a même dit qu'on a jamais dit qu'on ne souffrirait pas si on devenait ses disciples. Au contraire, il a annoncé énormément de souffrances terrestres à ceux qui voulaient s'aventurer à le suivre. Dans Jean 16, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Des tribulations, des méchants troubles. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je ne vous connais pas personnellement. C'est la première fois que j'ai la chance de vous rencontrer aujourd'hui pour la plupart. Je suis prêt à parier que plusieurs d'entre vous souffrez, sinon pas tous. Peut-être une souffrance intérieure, une dépression depuis plusieurs mois ou plusieurs années, la maladie mentale quelconque. Vous souhaiteriez tellement que ça ne soit pas tombé sur vous. Maladie dégénérative, la fibromyalgie, la sclérose en plaques. Vous souhaiteriez tellement que ça ne soit pas tombé sur vous. Peut-être que c'est une souffrance extérieure. On voit ça dans le psaume de David. C'est jusqu'à quand tu vas-tu cacher ta face? Il vit des choses à l'intérieur. Et puis, j'ai retrouvé mon passage. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? David vit une souffrance qui est intérieure. Il vit aussi une souffrance qui est extérieure. Jusqu'à quand mes ennemis s'élèveront-ils contre moi? David a énormément de gens qui sont opposés à lui et qui lui donnent du trouble. Et ce n'est pas pour du mal qu'il a fait. Simplement parce qu'il l'haïsse, tout simplement. Il vit de la tribulation de l'extérieur. Peut-être que vous souffrez d'une souffrance extérieure, des relations qui sont conflictuelles, brisées, dans votre famille, dans votre milieu de travail. Des gens qui vous piquent, qui veulent simplement vous faire du mal par méchanceté. Peut-être que vous avez participé un peu au problème, mais maintenant vous êtes là-dedans. Vous devez vivre le deuil de la perte d'un proche. Des situations où on est victime d'injustices qu'on subit. Ou peut-être même que vous souffrez dans votre attachement à Dieu. Comment est-ce qu'on peut souffrir de notre attachement à Dieu? Ben, c'est pas que Dieu vous fait du mal, mais plutôt, par exemple, que vous vivez une situation difficile et vous avez mille pourquoi et presque pas de réponse. Mais pourtant, vous savez que Dieu a toutes les réponses, mais il a choisi de ne pas vous les donner. C'est souvent parce que vous savez que Dieu peut, mais vous n'avez aucune idée pourquoi il ne le fait pas. Donc, je disais dans mon intro, tu peux pas t'échapper de la souffrance, mais tu peux choisir où est-ce qu'elle t'emmène. Tu peux pas t'échapper de la souffrance, mais tu peux choisir où est-ce qu'elle t'emmène. Les souffrances de la vie, c'est mon deuxième point, vous mènent inévitablement quelque part. Inévitablement. Donc, déjà, c'est inévitable qu'on souffre. Si tu portes la race de l'être humain ce matin, c'est inévitable que tu souffres. Et c'est aussi inévitable que cette souffrance t'emmène quelque part. Psaume 13, verset 4-5, « Regarde-moi, réponds-moi, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. » On voit David qui souffre, et il fait quoi? Il se tourne vers Dieu. Il implore l'aide de Dieu. Il fait appel à lui. Je te pose la question, où est-ce que tes souffrances te mènent? Par des plaisirs, un quelconque, par Netflix, ton téléphone, scroller sur Instagram ou Facebook juste pour t'anesthésier l'esprit, t'acheter quelque chose sur Amazon, ça te donne tellement de soulagement quand tu reçois le colis, enfin, tu sais, ou aller acheter, dépenser, je ne sais pas où, vers tes amis. Où est-ce que la souffrance t'amène? La souffrance t'amène nécessairement quelque part. Peut-être même ça t'amène à être méchant avec tes proches. Tu fais retomber sur eux ce que tu viens de. Il y a des années de ça, maintenant, je fréquentais Talina, qui est ma femme aujourd'hui. 6 mois après le début de nos fréquentations, on s'est laissés. Notre relation était houleuse. On avait tous les deux des choses à régler dans notre relation avec Dieu, dans notre vie personnelle. Et puis, quand on s'est laissé après quelques premiers mois de relation, j'ai tellement, tellement souffert intérieurement. Parce que j'avais couru après Talina pendant 4 ans. 4 ans, et j'avais prié, j'avais demandé à Dieu. Et j'avais vu Dieu ouvrir les portes une par une, tranquillement. Ça avait été long, ardu. Et finalement, enfin, elle avait posé le regard sur moi. On sortait ensemble. Et là, de voir que je la perdais, et j'avais aucun contrôle. C'était... Je ne pouvais pas la retenir. Il y a quelque chose qui bloquait dans notre relation. Ah, je croyais qu'elle ne reviendrait jamais. Je pensais que c'était fini, puis... J'avais manqué ma chance. Ah, j'en souffrais. Et là, j'étais face à une des plus grandes souffrances de ma vie à ce moment-là. À l'intérieur, j'étais déchiré. Je vais vous en parler un peu plus tantôt, mais malheureusement, j'ai pris la décision, plutôt que de me tourner vers Dieu, d'aller me saouler. Je suis parti avec des amis, puis j'ai bu jusqu'à qu'il n'y ait plus de frontières entre mes larmes, mon sourire. Puis... J'ai tout oublié pour quelques heures. Et puis, vous savez quoi? Je me suis réveillé le matin et la douleur était encore là. Et ça avait servi absolument à rien. J'avais juste anesthésié ça quelques heures, puis finalement, la douleur était encore là. Tout aussi vive, en plus j'étais malade. Et finalement, je me suis réveillé de mon ivresse, puis tout de suite, je me suis tourné vers Dieu. Je me sens que ça ne servait à rien d'essayer de mettre ça ailleurs. Je me suis tourné vers Dieu. Et puis, je lui ai parlé, j'ai déversé tout, sans filtre, tout. Je doutais de son amour, de son contrôle, et je trouvais que c'est lui qui me faisait souffrir, puis tout ça. Puis, dans notre psaume, David déverse sa douleur en toute franchise. Il ne contrôle pas la souffrance, parce que si c'était le cas, il mettrait tout simplement fin aux choses qui lui arrivent. Mais il fait quoi? Il choisit où est-ce que ça m'amène. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a laissé en commun. Et contrairement à ce que moi j'avais fait à l'époque, David choisit que la souffrance va l'amener à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que le résultat est bénéfique pour son âme. Tu ne peux pas t'échapper de la souffrance, mais tu peux choisir où elle te mène. Où te mènent tes souffrances? Maintenant, pour que nos souffrances nous mènent à Dieu, ça prend 2 choses. Ça prend d'être honnête avec Dieu et ça prend d'être honnête sur notre condition. Être honnête avec Dieu, c'est le propre d'une relation authentique. Avec n'importe qui que vous connaissez, si vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez pas avoir de relation authentique. Vous ne pouvez pas vous attendre à un échange productif. Moi, ma femme, Tania, elle doit être capable de me parler honnêtement, directement. Donc, ça veut dire que si je rentre après une journée de travail, puis pour elle, ça a été super difficile avec les enfants, on sait combien ils peuvent être difficiles toute la journée, elle doit pouvoir me dire, ma femme, « OK, pour la sécurité des enfants et pour ton intégrité, tu prends les enfants puis tu t'en vas au McDo ou tu vas au parc ou je sais pas, laissez-moi 15 minutes tranquille, il faut que je respire, tu sais. » Et elle n'écrit pas un formulaire, il n'y a pas de formule de politesse, c'est respectueux, mais c'est franc. Ma femme doit pouvoir s'adresser franchement à moi. Si tu crois que Dieu a créé l'univers entier, il y a un problème si tu ne crois pas qu'il soit capable de s'arranger avec tes doutes et avec des paroles franches. Tu ne déstabiliseras pas Dieu, t'inquiète pas pour ça. Il ne sera pas comme ouf, je suis mal à l'aise, je ne pensais pas qu'il doutait de mon amour. Ouf, je ne pensais pas qu'il avait ces combats-là. Non, Dieu n'a pas de problème avec ça. Tu peux être super franc avec lui. Même Jésus lui a crié sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si le Fils de Dieu peut s'adresser à son Père et lui demander, mais pourquoi tu m'as abandonné? Mais chacun de nous ici, qui sommes ses enfants, on peut être super direct avec Dieu. Maintenant, pour ça, ça prend d'avoir l'habitude de parler avec Dieu. Avec Tanina, début de mon mariage, on était peut-être un peu moins direct quand on était ensemble. On était très à l'aise, on ne s'est pas mariés pour rien. Mais, tu sais, ça a pris du temps de construire les choses. Et puis, finalement, la relation s'est construite, la confiance s'est accrue l'un envers l'autre, tout ça. Et puis, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est pas mal plus franc après quelques années de mariage l'un envers l'autre qu'on l'était au début. Et c'est très bien comme ça, respectueux, mais franc, direct. C'est un signe de confiance et de profondeur dans notre relation. Alors, je te pose la question ce matin, et c'est vraiment pas une accusation pour moi. As-tu de la difficulté à déverser tes sentiments et ta souffrance à Dieu? As-tu de la difficulté à déverser tes sentiments et ta souffrance à Dieu? Ben, si c'est le cas, c'est peut-être que tu n'as pas pris soin de ta relation avec Dieu. Pas à l'aise avec lui, tu ne le côtoies pas assez souvent. Donc tu es mal à l'aise, tu n'es pas trop habitué, tu ne sais pas comment lui parler. Peut-être que tu as besoin de retrouver cette profondeur par la prière chaque jour, le connaître, lire les Écritures tranquillement, échanger avec lui. Comprendre comment interagir avec lui, lui partager ce que tu vis quand c'est négatif. Croyez-moi, la persévérance dans la piété quotidienne, dans notre relation avec Dieu, c'est payant le jour où on est dans la souffrance. Parce que lui, d'avoir le réflexe comme moi j'avais eu, d'aller se jeter dans je sais pas quoi pour oublier tout, ben vous allez vous tourner vers Dieu. Tu choisis où est-ce que la souffrance t'amène. Et deuxième chose, pour pouvoir se tourner vers Dieu, pour que la souffrance puisse nous amener à Dieu, il faut être honnête sur notre condition. Il faut être honnête sur le péché, premièrement, dans nos vies. Je dirais 90%, il y a plein de souffrances qu'on vit, qu'on vit à cause des autres, qui ne sont pas à cause d'un péché direct dans notre vie. Mais 90% du temps, on y est pour quelque chose un petit peu. On sait qu'on n'est pas parfait, et ultimement, en fait, toute la souffrance qu'on peut vivre, elle est due à cause du péché. Pas forcément de mon péché précis, ce que j'ai fait tel jour à telle heure, mais à cause du péché qui est dans le monde, et on y participe tous à ce péché-là. Donc, pour commencer, tu dois être honnête sur ta condition, être honnête sur ton péché. David dit dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes yeux se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé le silence, mes os se consumaient. C'est pour ça que dans la repentance, la confession est importante. La confession à Dieu. Des fois, la confession à une autre personne de confiance à qui on doit pouvoir partager notre péché, la lutte avec laquelle on est. On vit et échanger, être redevable à cette personne-là. Tu dois être honnête sur ton péché. Vous savez, moi j'étais infirmier avant d'être pasteur, puis dans le milieu, dans le domaine social, quand une personne passe au travers d'un deuil, ça peut être le deuil d'avoir perdu sa jambe, ça peut être le deuil d'un décès de quelqu'un de proche de lui. La première étape pour pouvoir garantir un deuil qui fonctionne, qui amène à un progrès et à réussir à avancer dans la vie malgré la perte, c'est l'acceptation. C'est de ne pas faire du déni. De ne pas nier qu'il y a un problème, il y a quelque chose de grave qui s'est passé, j'ai plus de jambes, je ne peux plus aller au travail, c'est fini pour, je ne sais pas si je suis pompier, je suis plus pompier à vie. Peut-être devoir rester à la maison toute ma vie ou je ne sais pas quoi. Tant que tu es dans le déni, il n'y a aucune chance que tu puisses progresser. Avec le péché ou avec les souffrances, qui ne sont pas forcément des péchés, un péché de souffrir, tant qu'il y a du déni dans notre relation avec Dieu, il n'y aura pas de progrès possible. Donc, il faut apprendre à être honnête avec Dieu, être honnête sur notre condition. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais jeune, je faisais énormément de sport. J'ai fait tout mon secondaire en sport-études. Je m'entraînais peut-être 20 à 25 heures par semaine. Je faisais de la musculation, j'étais en boxe, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo. Je faisais de la compétition tout le temps. Puis pour me reposer, j'allais faire de l'escalade. C'était vraiment... Fini le secondaire, je rentre au cégep, je travaille, je fréquente une fille, tout ça. Les occupations avancent, puis finalement, j'ai plus le temps de m'entraîner. Là, je surfe sur la forme que j'avais acquise pendant plusieurs années. Et puis finalement, je finis par perdre d'abord ma forme, puis après ça, je gagne autre chose ici. Et là, j'arrive au point où, ces derniers temps, je réalise que, aïe, aïe, j'étais soufflé en montant les marches dans le métro. Fait que, je veux retourner faire du sport. Et ça fait des années que je me dis, je veux retourner faire du sport, mais une des choses qui me bloque, pour être franc avec vous, c'est que je suis pas capable d'accepter que je suis plus le meilleur. Si je m'en vais au gym ou si je joue à un sport ou quelque chose. Avant, j'étais tout le temps meilleur. Et là, je ne le suis plus. Et je ne le serai probablement jamais. Je vais peut-être être plus en forme que maintenant, mais je ne serai plus au maximum comme j'ai été quand je faisais tout le temps la compétition et tout ça. Puis il n'y avait que ça dans ma vie, en fait. Mais je dois accepter que je ne suis pas en forme. Finalement, j'ai accepté. Je suis allé m'inscrire dans une ligue de soccer. Puis là, je me suis inscrit dans... Il y avait plusieurs niveaux, là, compétitif masculin, compétitif féminin, compétitif mix, compétitif je ne sais plus quoi. Puis tout en bas, il y avait... la ligue loisir. Je me dis, je vais me mettre dans la ligue loisir, je suis sûr que je vais être meilleur que les autres. Eh non, j'étais pas meilleur que les autres parce que tous ceux qui étaient là, c'est ceux qui n'avaient pas eu de place dans les ligues compétitives au-dessus, mais qui jouent tout le temps au soccer. Moi, j'ai jamais joué au soccer en ligue et ça fait des années que je suis pas bougé. Fait que je suis allé au premier entraînement, je pensais que ça allait être relax. Écoutez, on finissait, c'est des games, c'était du soccer intérieur, là, et c'est des game de 10 minutes, c'est très très court, super intense. On joue avec les bandes en plus, ça, c'est mal mental. Et là, les games finissent, puis les gars ils sont super habitués, ils sont comme ok, fait que c'est quoi vos objectifs là, pour la prochaine partie? Alors, moi je vais plus jouer en avant-centre gauche ou je sais pas quoi, nanana. Moi, mes objectifs c'était de pas perdre connaissance et de sentir mes jambes. J'avais l'impression de perdre les jambes, je courais, puis c'était comme... j'avais l'impression d'être paraplégique, je ne sentais plus rien. Je me plantais, j'étais vraiment là... j'avais l'air d'une poule, pas de tête, qui manque d'argent. C'est vraiment... Mais c'était nécessaire à mon progrès. Et finalement, la game a fini, puis j'ai dit, je ne lâcherai pas, je vais faire toute la saison. Je vais accepter que je suis vraiment pas le meilleur, puis je le serai pas, puis peut-être que je vais même rester le plus mauvais de toute la ligue, mais au moins je vais passer du vraiment plus mauvais au un peu moins plus mauvais. Il va y avoir une progression, tu sais. Bref, il faut être honnête sur notre condition avant de pouvoir progresser avec Dieu. Donc, la souffrance de la vie est bien réelle et elle peut durer longtemps. La souffrance de la vie nous mène nécessairement quelque part. Et pour qu'elle puisse nous mener quelque part, il faut être honnête avec Dieu et honnête sur notre condition. Maintenant, ok, c'est bien vrai, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas encore répondu à la question du début. Comment est-ce qu'on passe du désespoir de la souffrance à une expérience joyeuse de l'amour de Dieu? C'est une chose de se tourner vers Dieu dans la souffrance, mais c'en est une autre d'expérimenter la joie au travers de la souffrance. Dites-moi, comment David peut dire au verset 6, « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans l'allégresse. À cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Quoi? T'étais pas en train de te plaindre il y a 2 minutes? De dire que tu souffrais tellement, comment est-ce que tu peux avoir le cœur dans l'allégresse? Et l'allégresse, c'est gros, là, c'est plus que de la joie, là, c'est vraiment énorme. Et chanter à l'Éternel et dire « Il m'a fait du bien », t'es en train de dire « Jusqu'à quand est-ce que tu vas m'oublier? » Jusqu'à quand est-ce que tu vas me cacher ta face? Comment passe-t-on du désespoir de la souffrance à une expérience réelle, joyeuse de l'amour de Dieu, pas juste en théorie? On a l'allégresse dans le cœur, là. C'est pas de la théorie, là. Je sais pas, je l'ai dans ma tête, parce que je sais que je devrais l'avoir. Il le vit. Eh bien, la réponse est la suivante, et c'est mon troisième point, les amis. Par la foi. La foi nous permet de vivre la joie de l'amour de Dieu, même dans la souffrance. Je vous explique. Et moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans l'allégresse, à cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. David choisit d'être dirigé vers Dieu par la souffrance. Et pour ça, il place sa foi dans l'amour de Dieu plutôt que de regarder à ses circonstances. La foi, c'est de plier ton cœur à ta raison. Je vous explique. La foi, c'est d'accorder ton cœur à ta raison. C'est vraiment tous des moments où on souffre pas, heureusement. Ou moins, puis on est comme plus lucide, je dirais, moins tiraillé émotionnellement. Et on est dans des moments où on étudie les Écritures, je l'espère, je vous encourage à le faire parce que ça va vous aider. Et on prie et tout ça. Et on connaît les vérités de Dieu, de la parole, les choses qu'on sait être vraies, inébranlables, et que raisonnablement, rationnellement, dans nos temps de quiétude, on a étudié, on a dit, ouais, définitivement, je crois ce que la Bible dit sur la personne de Dieu, sur peu importe ce que vous pouvez dire, sa bonté, sa souveraineté, son contrôle, son amour pour moi. Raisonnablement, vous croyez à ça. C'est pas juste la fantaisie. Mais vient le moment où, là, la souffrance arrive, puis on est moins rationnel. Et émotionnellement, là, on est tiraillé partout, on voit des choses de nos yeux, mais on croit quelque chose d'autre de notre tête. Et tout est débalancé. On est comme, OK, comment est-ce que Dieu peut m'aimer si je vis ça en ce moment? Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est au contrôle si son Église se divise complètement dans une dispute ou je ne sais pas quoi? Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rappeler. Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans le moment de quiétude? Qu'il est au contrôle. Qu'il t'aime. Et tu savais au moment où tu avais le temps et toute ta tête pour bien réfléchir à tout ça, que c'était vrai. Alors, dans la souffrance, tu accordes ton cœur à ta raison. Tu places ta foi dans ce que Dieu dit plutôt que dans ce que tu vois. Tu crois ce que Dieu te dit plutôt que de te fier sur tes circonstances. Tu t'accroches à lui plutôt que de t'accrocher à tout ce qui bouge autour de toi et qui ne te tiendra pas de toute façon. La foi, c'est d'accorder votre cœur à votre raison. Et c'est ce que David fait. Il se rappelle, moi j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Il sait que Dieu a déjà accompli pour lui ses promesses. Mais qu'il ne les voit juste pas encore. Je vous ai parlé tantôt du moment que j'ai vécu avec Talina quand on s'est laissé après quelques mois de fréquentation. Ça a été un des temps les plus sombres de ma vie. Je vous explique pourquoi. J'ai déjà terminé mon CDC. Notre église était en train de se pulvériser dans un conflit très triste. On était tous pris dans l'amertume et la partisanerie, la dispute, et on avait oublié l'amour des uns et des autres. Il y avait beaucoup de difficultés financières dans nos deux familles pour toutes sortes de raisons. Il n'y avait personne qui avait fait de fautes. Mon père n'est pas allé jouer au casino, ou je sais pas, d'autres des membres de la famille qui ont flambé leur argent. Non, mais on a vécu des temps d'épreuve et on était sur la corde raide financièrement, tous. Autant les enfants que les parents, puis c'était vraiment, vraiment difficile. Mon frère et ma soeur, ma soeur et mon beau-frère ont découvert qu'au moment où ils vendaient leur maison, qu'il y avait de l'amiante dans le toit, la valeur de leur maison est tombée très, très basse. Ils n'avaient plus d'argent, ils étaient obligés d'habiter chez mes parents. Puis là, ils ont appris que ma soeur était enceinte quand on était chez mes parents. Puis mes parents étaient en train d'héberger des réfugiés africains en même temps. Dans ce temps-là, moi, j'habitais en appartement. Puis à un moment donné, je me lève le matin, je débarque de mon lit, puis j'ai les pieds dans l'eau. Ma chambre était toute petite dans mon appart. Fait que j'avais empilé mes livres avec lesquels j'étudiais pour mes soins infirmiers. On était en fin de session au mois de décembre. Et là, c'était de l'eau de toilette et tout avait monté, imbibé dans les livres. Tout était perdu, je ne pouvais plus étudier, j'avais pas rien, pas de livre, pas de note de cours. Puis c'était un gros dégât, le procès durait 2 ans pour savoir qui allait payer. Ça avait coulé sur les 3 étages en dessous. J'avais plus d'appart, je squattais chez du monde parce qu'il y avait déjà trop de monde chez mes parents, plus de place. J'allais chez des amis 2 jours, 3 jours ici, 3 jours là. Et puis, ma voiture, dans le même temps, lâchée. J'avais plus d'argent, plus d'appartement, plus de blonde, plus de voiture, plus de livres, plus d'église. C'était vraiment, vraiment difficile. J'avais des profs qui me demandaient si je faisais de la drogue, tellement ça leur semblait invraisemblable que tout ça m'arrive en même temps. Et vraiment, une prof, elle m'a pris la parole et dit « Quentin, est-ce que tu consommes? » Je dis « Non, ça arrive, je ne sais pas quoi vous dire. » Finalement, j'ai demandé au cégep de reporter mes examens. Ils ont accepté, donc j'ai fait mes examens en janvier parce que je pouvais juste rien faire. J'ai pensé m'enlever la vie. C'était la fois de ma vie où je me suis assis à un moment donné et je me suis dit, c'est-tu à ce moment-là qu'on se demande si ça finit? J'étais au bout du rouleau, complètement. Puis je regarde ça en arrière, je me dis, heureusement, je ne suis pas enlevé la vie, mais sur le coup, c'était. Tout était sombre, tout était sombre. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai appliqué mon cœur à ma raison. Je me suis rappelé, qu'est-ce que Dieu me dit quand je suis lucide, quand je suis toute là, tu sais. Dieu me dit que ses bontés pour moi se renouvellent chaque matin. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. David est encore dans la souffrance, et déjà il peut commencer à chanter des louanges à Dieu et à vivre, expérimenter la joie de Dieu et son amour dans sa vie. Je ne pouvais pas le voir de mes yeux, et même, je vous dis, pour des mois, et même s'il y a des choses qui nous ont traîné des années après de toute cette période-là qu'on a vécu dans ma famille, dans la famille à Taïna. Je ne pouvais pas le voir de mes yeux. Les souffrances ont continué, mais par la foi, je pouvais croire que la bonté de Dieu se renouvelait pour moi chaque matin. Jusqu'à quand, mes amis? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir de la tristesse que m'apporte la vie? Pas longtemps, mon ami, parce que Apocalypse 21 nous dit qu'à son retour, Christ essuiera toutes les larmes de nos yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces choses auront disparu. Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir de la maladie mentale? Pas longtemps, mon ami, parce que Christ nous a dit en Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume des cieux. » Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir de la fibromyalgie, de la sclérose en plaques, de je ne sais pas quelle maladie? Pas longtemps, mon ami, parce que Philippiens 3 nous dit que Christ transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toute chose. Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir toutes les conséquences du mal que j'ai commis ou que d'autres ont commis contre moi? Pas longtemps, mon ami, parce que Christ est mort sur la croix pour vaincre Satan, le péché, la souffrance, la mort, l'enfer et la colère de Dieu qui reposaient sur toi. Jusqu'à quand souffrira-t-on le deuil de la mort de nos êtres chers? Pas longtemps, mon ami, parce que Christ est ressuscité des morts pour nous donner la vie éternelle. Jusqu'à quand vais-je souffrir de la pauvreté matérielle? Pas longtemps, mon ami, parce que Christ est monté au ciel pour nous préparer une place. Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir réclamer la justice pour que ma dignité soit respectée? Pas longtemps, mon ami, parce que Christ règne aujourd'hui dans les cieux à la droite de Dieu et il revient pour juger les vivants et les morts et la justice sera faite. La guerre est gagnée, mes amis, même si la bataille continue. La guerre est gagnée, on le sait. Il faut juste que la bataille s'achève. Mais vous êtes dans mon camp. Ou du moins, je vous appelle à l'être. Ayez la foi en appliquant votre cœur à votre raison. C'est comme ça que vous pourrez vivre au travers de la souffrance. La joie inébranlable que Dieu vous offre. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous réchauffe le cœur, qui nous aide à nous rappeler les vérités qu'on doit se remémorer dans les temps de souffrance, Seigneur, pour appliquer notre cœur à notre raison. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi dans ces temps difficiles qu'on traverse. Je prie pour cette église ici, Seigneur, pour leur pasteur, premièrement, pour la maladie physique qu'il vit. Je te prie, Seigneur, que tu puisses le bénir, que tu puisses le soutenir. Oui, physiquement, Seigneur, soulager ses douleurs, mais aussi surtout le soulager spirituellement, le fortifier, le vivifier, Seigneur. Notre corps se détruit de jour en jour, dit Paul, mais la vie de Christ grandit en nous. Et notre esprit se régénère. Et c'est ce que je te prie pour leur pasteur, Seigneur, parce que de toute façon, on sait que ça ne s'en va pas en s'améliorant, Seigneur. On va tous finir. On ne meurt jamais en santé. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses faire en eux l'œuvre de ton esprit, Seigneur, les fortifier en tant qu'Église pour le temps qu'ils passent, qui est souvent plus difficile sans pasteur, pour la charge qu'ils portent, pour la tristesse. Et je te prie pour chacun d'entre eux individuellement, Seigneur. Que leur expérience, que leur désespoir dans la souffrance puisse devenir une expérience réelle et joyeuse de ton amour. Donne-leur la force, Seigneur. Tu leur as déjà donné de choisir où la souffrance va les mener. Tu nous dis dans Pierre, Seigneur, que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de ton Fils. Et je te prie, Seigneur, que ça puisse être le vécu de chaque personne ici, qu'ils réalisent que tu leur as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, à la persévérance dans la foi, grâce à Christ. Que tu puisses les soutenir, Seigneur, peu importe le temps de souffrance qu'ils peuvent passer, les encourager, Seigneur, et leur donner la joie profonde dans leur cœur. Amen.
Merci, mon frère, pour ce message enrichissant. À ce moment ici, j'inviterai mon frère Michel à s'avancer pour les offrandes. Merci pour votre fidélité à soutenir l'œuvre de Dieu par vos offrandes pour cette Église. Il ne faut pas oublier que c'est un geste de piété approuvé et agréable à Dieu, un geste qui bénit. Lorsque nous redonnons à Dieu, soyons reconnaissants pour sa grâce et sa générosité à notre égard. Puis-tu faire une prière pour nous, Michel?
Oui, Seigneur Dieu, Père Céleste, nous voulons encore une fois te remercier, Seigneur Dieu, pour notre frère qui nous a apporté la parole ce matin, Seigneur. Et cette parole, Seigneur Dieu, qui parle à nos cœurs, Seigneur, est-ce que nous tournons vers toi, Seigneur Dieu, tant que nous souffrons, Seigneur Dieu? Est-ce que nous mettons toute notre foi en toi, Seigneur Dieu, ou nous essayons de aider nos souffrances par nous-mêmes, Seigneur Dieu? Ouvre nos cœurs, Seigneur Dieu, pour que notre foi grandisse en toi, que notre relation soit plus solide que jamais.